Question d'islam par Aleb Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons du retour du sacrifice, notamment du djihadisme, avec toujours ce suffixe « isme », avec le professeur Jacob Rogozinski. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Merci à vous de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Vous vous intéressez dans votre champ de compétences et votre travail à ces logiques de la haine. Et là, tout particulièrement, vous parlez du djihadisme et du retour du sacrifice. Comment êtes-vous amené déjà à travailler sur ces questions ?
Alors, la question générale de la haine et des persécutions, c'est une question qui me préoccupe depuis des années. Et ça m'a conduit à écrire un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui est paru il y a 2 ans, « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur », où je me suis dit, pour essayer de comprendre la logique de la haine, ce que j'appelle les dispositifs de terreur, il faut que je fasse une enquête historique, que je parte d'un cas précis de persécution, et j'ai pris comme exemple la chasse aux sorcières, et à partir de là, j'ai rayonné jusqu'à la Révolution française. Donc ça m'a beaucoup aidé à faire ce livre, le livre sur le djihadisme que j'ai fait vraiment en assez peu de temps. C'est le livre le plus bref et le plus grand public que j'ai jamais écrit. Bon, mais il y avait une pression forte d'actualité et le fait que j'ai déjà réfléchi sur qu'est-ce qu'un dispositif, comment un dispositif de persécution, de terreur peut arriver à capter des affects des multitudes, par quels moyens, ça m'a permis d'aborder plus facilement la question du djihadisme.
Jacob Rogozinski, vous dites que l'appellation terrorisme n'est pas tout à fait appropriée parce que quand on a un isme, ce sont les adeptes de la doctrine qui s'en prévalent. Or, les terroristes ne disent pas qu'ils sont terroristes et vous lui préférez plutôt, j'ai trouvé ça, permettez-moi de le dire, extrêmement pertinent, dispositif de terreur.
Effectivement, je trouve que la notion de terrorisme, c'est très difficile de changer une notion qui est incrustée dans nos habitudes depuis des dizaines d'années, comme terrorisme. Radicalisation aussi, ça me paraît problématique. Et même le terme islamisme, on peut le discuter. Enfin, mais en tant que philosophe, mon travail, c'est aussi d'essayer de définir des concepts, selon la formule bien connue, très souvent citée de Camus, mal nommer les choses revient ajouter au malheur du monde. Donc j'essayais d'abord dans le début du livre de renommer les choses, de bien les nommer pour que ce soit plus précis. Alors terrorisme, je trouve que c'est une notion écran, c'est un mot qui ne convient pas parce que c'est avant tout trop massif, trop statique. Bon, sous le nom de terrorisme, en général, on désigne des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on trouve dangereux, menaçants, violents, mais ça peut être n'importe quoi. Bon, après tout, Jean Moulin a été qualifié de terroriste par les nazis et leurs agents. Bon, Nelson Mandela a été aussi qualifié de terroriste. Le terroriste, c'est l'autre. Bon, mais par contre, la violence qu'exercent les États eux-mêmes, par exemple l'État nazi ou l'État syrien sous Assad, etc. Bon, on parle jamais de terrorisme. C'est aussi une notion qui vient des États. C'est une notion qui permet de désigner, pour les discréditer, tous ceux qui s'opposent à leur politique, en évitant d'avoir à s'interroger sur la terreur qui vient d'en haut, sur la terreur d'État. Mais surtout, je pense que c'est important de distinguer différentes stratégies de terreur, différents types de dispositifs de terreur. Alors, il y a d'abord des dispositifs qui cherchent à défendre une région, un territoire. Par exemple, on l'IRA en Irlande, l'ETA au Pays Basque, c'était aussi le cas de l'OLP, palestinienne. Alors, ce qui intéressait, c'était le cas d'une autre façon des dispositifs comme le FLN algérien qui n'a pas hésité à pratiquer des assassinats, des attentats, mais c'est dans le cadre d'un mouvement de libération ou de résistance comme les résistants durant la Seconde Guerre mondiale qui cherchent à libérer leur territoire d'une occupation ennemie. Alors en général, ces dispositifs-là, ils ont une stratégie de terreur provisoire. Lorsqu'ils arrivent à leur fin, lorsqu'ils reconquièrent l'indépendance, ou lorsque le contexte se modifie, ils peuvent abandonner cette stratégie pour rentrer dans un processus de négociation. Et c'était le cas de l'OLP, c'était le cas récemment des FARC en Colombie, c'était le cas de l'ETA, Donc on peut arriver à négocier. Alors ce n'est pas le cas, me semble-t-il, du djihadisme. Parce que là, on a affaire à un dispositif de terreur d'un autre type. On a affaire à une stratégie de terreur très différente qui s'inscrit dans une visée qu'on peut juger délirante, mais une visée de domination totale, de domination mondiale, et qui considère ses ennemis, c'est-à-dire au fond l'ensemble du monde, l'Occident, et aussi les musulmans qui ne participent pas de leur doctrine, hein, qui considèrent l'ensemble de leurs ennemis comme des ennemis absolus, comme des monstres indignes de vivre qu'il faut exterminer. Et donc avec ces gens-là, malheureusement, bon, il n'y a aucun compromis possible, parce qu'ils n'abandonneront jamais la terreur. C'est inhérent à leur stratégie. Donc vous voyez, le mot de dispositif, il est préférable à celui de terrorisme, ce qui permet de penser à diversité, à la complexité des stratégies.
Bien, dans cette phase où nous cernons le champ sémantique, vous distinguez aussi la notion de violence de la notion de terreur.
Oui, parce qu'il y a toutes sortes de violences. Il y a des violences légitimes. Bon, des gens qui se révoltent contre l'injustice peuvent parfois pratiquer la violence. J'évoquais les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont déposé des bombes, ils ont assassiné. Il y a une violence qui est juste, il faut pas hésiter à le dire. Là, je suis pas un j'admire beaucoup le Mahatma Gandhi, mais je suis pas un gandhiste. Je pense qu'il y a des cas où la violence est nécessaire pour résister au mal, pour résister à l'injustice. Alors la terreur, c'est autre chose. Alors, il faudrait la définir. Ce que j'appelle dispositif de terreur, sont des dispositifs au fond de persécution et d'extermination. Ce sont des dispositifs qui pratiquent une violence exterminatrice en désignant leurs adversaires comme des cibles à anéantir.
Et là, bon. Uniment, indistinctement.
Oui, je pense que. Bon, il y a des dispositifs de terreur stratégique, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui, pour un temps, engagent un combat pour libérer leur pays. Bon, Jeanne d'Arc, par exemple, très clairement, elle cherchait pas à exterminer les Anglais, elle voulait simplement les chasser hors de France. Bon, elle est d'ailleurs arrivée. Mais lorsqu'on a affaire à un dispositif de terreur absolu...
Dans le cas de Jeanne d'Arc, il y a cette anecdote, elle avait dit « Est-ce que Dieu aime les Anglais ?» Et elle a rétorqué « Je ne sais pas s'il les aime ou pas, ce que je veux, c'est qu'ils soient boutés hors de France. »
Chasseurs de France, tout à fait. J'aime beaucoup cette citation, c'est remarquable. Donc, c'était pas, elle était pas pour l'extermination des Anglais, elle en faisait pas des monstres, hein, des êtres diaboliques. Or, j'ai l'impression clairement que dans certains cas de dispositifs de terreur, l'ennemi est présenté comme un ennemi absolu, c'est-à-dire un être indigne de vivre qu'il s'agit d'anéantir par tous les moyens. Alors, c'était le cas des fascismes, du nazisme, c'est le cas du djihadisme aujourd'hui.
Lequel djihadisme est global, transfrontalier, qui n'a pas de territoire? Vous dites que son expansion, c'est la planète entière.
Je pense que c'est clair dans les textes. Je veux dire, dès le départ, bon, il y a cette idée que l'islam appartient à la terre entière, l'islam tel qu'ils l'entendent, c'est-à-dire une version...
Chez Maoudoudi,
voilà,
chez
tout
Koutou,
à fait,
voilà.
Tout à fait.
Enfin, j'ai cité deux penseurs, ou en tout cas idéologues, oui, de l'islamisme politique.
Maoudoudi, Saïd Koutb, ces gens-là, bon, très clairement pour eux, leur version de l'islam, qui pour eux exclut toutes les autres, ce sont des takfiristes, hein. Pour eux, bon, des gens comme vous sont des apostats qui méritent la mort, clairement. Hein. Bon.
Enfin, moi, je suis ici que médiateur, en tout cas à l'antenne de France Culture.
Oui, j'entends bien. Non, pour eux, tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision de rétrograde et fanatique de l'islam sont des ennemis à anéantir. Mais ils ont la vision d'un empire mondial. Ils veulent détruire. C'est dit clairement dans les textes, comme le livre appelé « Gestion la barbarie » d'Abou Bakr Nadji. Bon, c'est un texte très étonnant. Il dit clairement, bon, il s'agit d'anéantir l'Occident et d'imposer ce que appelle l'islam à la terre entière.
Oui. Cet ouvrage, dont on ne sait pas s'il est écrit que par un seul homme, Abou Bakr al-Nagi, ou d'autres, avec sous ce pseudonyme, où c'est lui qui serait le directeur de collection, si je puis dire, la gestion de la barbarie ou l'administration de la sauvagerie, selon les définitions, érige la théâtralisation de la violence et l'esthétisation, si je puis dire, de la cruauté, comme moyen d'administrer l'État, enfin le pseudo-État qui est le leur. Donc.
Oui, tout à fait. Il est paru, sauf erreur, en 2003. On ne sait pas qui l'a écrit. C'est un pseudonyme. Est-ce que c'est un groupe? Enfin, bon, mais c'était cette mouvance djihadiste de nouvelle génération. Enfin, ses disciples d'Al-Souri, peut-être. Bon, bien. Et c'est devenu, me semble-t-il, c'est un peu la Bible ou plutôt le Mein Kampf de Daesh. Ça décrivait très clairement, 10 ans plus tôt, ce qu'allait devenir la stratégie et aussi les méthodes assez incroyables de Daesh. C'est-à-dire d'un groupe qui non seulement exerce la terreur, mais qui la médiatise et l'exhibe. Il y a une exhibition de la cruauté qui est un peu la marque de fabrique de cette organisation et qui, hélas, a contribué certainement à son succès, à la fascination qu'il a pu exercer.
Sur un autre point, vous dites si bien, que l'on veuille disculper la tradition religieuse islamique ou que l'on veuille l'incriminer, ce qui est sûr, c'est que ceci n'a rien à voir avec l'islam ou le halt à l'amalgame n'est pas une solution. En tout cas, on ne peut pas s'y cantonner.
Tout à fait. Bon, je crois qu'il y a deux positions que j'essaye d'éviter, que je critique dans mon livre. Bon, il y a la position qui est, à mon avis, montante aujourd'hui, de plus en plus forte, c'est la position anti-musulmane. Elle se répand de plus en plus dans les médias, chez certains intellectuels ou prétendus tels, chez certains politiques hélas. Ça consiste à voir au fond dans tout musulman un djihadiste en puissance, parce que ces gens pensent que au fond l'islam, et ça se dit, hein, ça se lit, ça se publie, que l'islam serait par essence violent et fanatique. Alors tout mon livre est écrit contre ça, pour déconstruire cette idée fausse. Bon, mais il y a la position inverse, qui est peut-être moins dangereuse, mais qui finalement est très aveuglante aussi.
Et naïve.
Et naïve. Et celle qui consiste à dire, bon, ça, à chaque attentat on entend ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, halte à l'amalgame. Bon, alors lorsque c'est dit par un croyant musulman sincère, je pense que ça a une portée qu'on ne peut pas mépriser. Ça signifie je ne me reconnais pas dans cette violence-là. Ça ne correspond pas à l'image que je me fais moi à juste titre de ma religion. Bon, c'est not in my name, pas en mon nom. Voilà. Mais alors lorsque c'est repris, lorsque ça n'a rien à voir, est repris par des politiques comme notre ancien président de la République, par des intellectuels reconnus comme Alain Badiou et quelques autres, là je pense que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est visiblement faux. Je veux dire, derrière il y a cette idée très répandue en France, très française au fond, que la religion est une illusion. Que c'est un masque, que ça n'a pas de consistance réelle, que ça recouvre autre chose de social, de psychologique, d'économique, tout ce que vous voulez. Alors donc bon, ce sont pas les djihadistes ne seraient pas des fanatiques religieux, ce qui sont de toute évidence, mais ce serait soit, alors si on est psychiatre, on dit ce sont des fous. Si on est sociologue, on dit ce sont des jeunes qui souffrent de l'injustice dans les banlieues, ce qui est pas entièrement faux, etc. Mais non, on ne peut pas ne pas tenir compte de la référence religieuse, de leur action, de leur discours. Bon, il y a des gens qui disent que ce sont des nihilistes. Badiou le dit, Olivier Roy, qui est un chercheur sérieux, le dit aussi. Ça me paraît tout à fait inexact. Qu'est-ce qu'on entend par nihilisme? Dans nihilisme, il y a le mot latin nihil qui veut dire rien. Un nihiliste, depuis Nietzsche, ça définit quelqu'un qui ne croit en rien. Alors je pose la question, est-ce que quelqu'un qui est prêt à tuer et à se tuer pour sa croyance religieuse, au nom de sa croyance religieuse, est-ce qu'on peut dire qu'il ne croit en rien? C'est aberrant. Donc il faut prendre au sérieux la dimension religieuse du djihadisme. C'est pour ça que je dis que le djihadisme a tout à voir avec l'islam, même s'il n'est pas la vérité de l'islam.
Oui, et surtout cette idée de croire. Vous dites que croire uniquement, ça a l'air d'être léger, ça relève de la conjecture, mais croire à et croire en, c'est quelque chose de très fort et bien ancré.
Tout à fait, oui. J'essaie de définir un autre mot. Je ne pense pas qu'on puisse renoncer au mot religion, parce que c'est un mot qui est très ancien. Là, 20 siècles, on pourrait abandonner peut-être le mot stupide de radicalisation, peut-être avec plus de difficulté un autre mot écran, celui de terrorisme. Mais alors religion, on aura du mal, ça remonte à 20 siècles, et même plus. Mais comme c'est un mot latin, il n'y a pas d'équivalent en grec, ni en hébreu, ni en sanskrit, peut-être en arabe, mais encore faudrait voir.
C'est plus une notion de créance et une notion de loi au sens fort du terme qu'une question de religion.
Ouais, c'est bien ce que je pense. C'est religion, au sens où on l'entend, ça vaut au fond pour le christianisme et seulement pour le christianisme. Donc, ça serait bien un jour de renoncer à parler de religion. Et moi, je propose de parler de dispositif de croyance, puisque j'essaie de penser en termes de dispositif, c'est-à-dire d'ensemble complexe et mouvant, développant des stratégies différenciées et se transformant sans cesse. Bon, alors là, on n'a pas affaire à un dispositif de pouvoir, comme ce qu'on appelle le politique. On a affaire à un dispositif de croyance. Du coup, il faut se demander qu'est-ce que c'est que croire. Et comme vous le dites, il faut bien distinguer, et on ne le fait pas assez souvent, la croyance au sens faible, c'est-à-dire je crois qu'il pleuvra demain. Bon, c'est une connaissance faible, c'est douteuse. Il faut distinguer ça d'une position forte. Bon, par exemple, le credo chrétien, la shahada de l'islam.
Dans sa seconde partie, voilà. Bien plus tard, parce qu'avant, ce n'était que il naît de Dieu ou il naît de divinité que Dieu. Et le fait d'ajouter croire en la prophétie mohammedienne est après coup.
Oui, mais ce qui m'intéresse, là, quand je parle de croyance, c'est l'énoncé, si vous voulez. Oui. C'est l'énoncé qui est du type de credo ou de... Bon, écoute Israël, bon, chaque religion a son credo fondamental. Et je dis, bon, c'est la même chose lorsque quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, en dehors de toute religion, je t'aime. Hein, c'est un énoncé qui ne décrit pas quelque chose, c'est un énoncé qui fait exister un amour. Et si l'autre répond, à ce moment-là, l'amour est partagé, et de deux personnes solitaires, on en vient à un couple d'aimants. Et c'est pareil dans la croyance religieuse, vous voyez.
Le « je t'aime » tout court est beaucoup plus fort que le « je t'aime beaucoup ».
Absolument.
C'est parfois quand on rajoute, qu'on diminue aussi.
Donc, alors celui qui dit « je crois en Dieu » ou « je crois en ce Dieu-là », bon, très fortement, il se transforme lui-même. Il s'affirme comme membre d'une communauté de croyants avec des implications très fortes et il attend une réponse. Quand on dit « je t'aime », si l'autre ne répond pas, on est un peu dépité. C'est l'amour au transi, ça va pas. Donc, mais ces énoncés de croyance sont des énoncés adressés. Ils sont destinés à quelqu'un d'autre. Et bon, je pense que tout énoncé de croyance, il est adressé à une figure du divin. Et on attend d'une certaine et aussi à la communauté des croyants qui se réclament de cette figure du divin. Donc le croyant qui prononce cette profession de foi, il attend d'être reconnu par sa communauté. Être reconnu par Dieu, c'est plus compliqué, mais être reconnu par la communauté, bon, c'est décisif.
Ce qui vous pousse à vous interroger aussi sur l'épithète modérée qu'on accole à croyant, a-t-elle un sens ou pas ? Qu'est-ce que c'est qu'être modérément croyant ?
Être modérément croyant, c'est ne pas être croyant du tout, si vous voulez. Bon, non, je dis ça parce qu'on entend très souvent des gens tout à fait honnêtes qui disent « Ah, il serait temps qu'enfin advienne un islam modéré qui serait compatible avec notre société. » Bon, mais qu'est-ce que c'est que être modérément croyant ? Je veux dire, une croyance, elle engage le croyant dans tout son être, dans toute sa vie, dans tous ses modes d'existence. Donc, je pense qu'il faut, on peut pas être modérément croyant. Ce qu'il faut, c'est, un croyant toujours radical. Ça engage sa vie dans ses racines même. La question, c'est quelle radicalité est en jeu.
Et ce serait à l'extrême rigueur recevable si ça concernait dans cette approche l'ensemble des traditions religieuses et notamment monothéistes. Mais parfois, on le dit exclusivement qu'aux musulmans.
Oui,
et
oui.
Dans des phrases, on dit on a réuni des juifs, des chrétiens et des musulmans modérés.
Oui, oui, oui.
Ce qui sous-entend que la modération est par extraordinaire l'exception puisqu'on la souligne et que la radicalité est la règle générale.
Oui, non, mais ça renvoie à ce que... dans la radicalité, au mauvais sens du terme, au sens où on l'identifie à tort au fanatisme. Non, j'ai dit dans mon livre que... il y a une croyance des croyances très radicales dans l'islam. Par exemple, les maîtres soufis, bon, que j'évoque en passant, ils se vouent à fondre totalement leur être et leur âme dans le brasier de l'amour divin. Quoi de plus radical que cela? Mais ça n'a rien à voir, mais rien. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec un terroriste qui se fait sauter.
Et laquelle radicalité des mystiques en se fondant, en se jetant dans le brasier divin, c'est pour aimer l'ensemble de la création et des créatures, y compris les êtres humains.
Et aussi reconnaître dans l'ensemble des croyances une adoration du Dieu unique. Ça, c'est un point très important du livre aussi.
Cette prière du soufi, Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé chacune d'elles puisse recevoir une parcelle.
Ah, c'est magnifique. C'est quel soufi, excusez-moi?
C'est un soufi anonyme, mais on pense que ce serait Nassafi, un mystique du XIIIe siècle. Un mot peut-être encore sur le fanatisme. Vous avez cette citation de Voltaire à juste raison. C'est que le fanatisme est à la superstition ce qu'est la rage à la colère.
Et il ajoute, celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que je cherchais un terme qui pourrait remplacer le terme très maladroit et très problématique de radicalisation, radicalisme pour les raisons qu'on a déjà dites et pour d'autres aussi. Et puis je me dis, pourquoi ne pas employer ce vieux mot un peu usé mais très intéressant de fanatique. C'est un mot très riche et très intéressant.
Venant du fanum qui est l'enclos sacré, oui, en réalité.
Tout à fait. C'est un mot latin. Dans l'ancienne religion romaine, le fanaticus, c'était le desservant de l'enclos sacré, celui qui pratiquait, qui aidait le prêtre, sans doute, à pratiquer les sacrifices et les rites. Puis à un moment donné, c'est venu à désigner une religion superstitieuse, excessive, extrémiste, ce que devaient être apparemment les premiers chrétiens pour les Romains, donc des fanatici. Ce que dit Voltaire est très juste. Il veut dire par là qu'au fond, aucune religion n'est en soi fanatique. Pas plus l'islam qu'aucune autre. Simplement, lorsqu'une religion utilise la terreur et le meurtre pour imposer ses dogmes, alors elle devient fanatique. Et c'est un danger, c'est une perversion de cette religion, ce que j'appelle une défiguration, qu'on trouve dans l'islam, qu'on trouve dans le judaïsme, qu'on trouve même dans le christianisme abondamment, avec l'inquisition, les croisades et d'autres choses, et qu'on trouve même dans une religion aussi compatissante que le bouddhisme, qui semble être le plus pacifique de toutes les religions. Il faut voir aujourd'hui en Birmanie, le sort qui est fait à une minorité musulmane, parce qu'ils sont les militaires sont excités par des bonzes bouddhistes fanatiques. Donc le fanatisme, c'est une dérive, c'est, comme je dis, la contre-vérité de la vérité des religions. C'est une dérive ou une défiguration du message religieux qui guette toutes les religions, et il faut que donc les religions trouvent en elles-mêmes les ressources permettant de combattre et de résister à leur propre fanatisme.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacob Rogozinski. Nous parlons aujourd'hui du retour du sacrifice. Ah, pourquoi retour ? Il y avait eu déjà des phases, des périodes dans l'histoire où il y avait le sacrifice, où il y a une exacerbation aujourd'hui ?
Oui, alors là, vous touchez le cœur du livre. On parlait tout à l'heure, vous l'avez mentionné, l'exhibition de la cruauté par les fanatiques de Daesh. Cette manière qu'ils ont, qui est abominable, de filmer, de diffuser massivement sur Internet des égorgements, des supplices, des mises à mort, et qui a certainement attiré des gens un peu...
Des fragiles d'esprit.
Des gens un peu... Là, pour le coup, on est au bord de la psychiatrie, sans doute. Des gens déséquilibrés, ça a sûrement contribué à leur force d'attraction. Puis aussi, c'est une manière de montrer leur souveraineté. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que nous sommes capables de faire ce que nous voulons des gens qui sont entre nos mains, que nous dirigeons. Et lorsque nous faisons un attentat dans le monde entier, ça veut dire que le monde entier est le champ de notre futur empire. Donc je pense que chez eux, le meurtre et l'exhibition de la cruauté ont aussi une fonction de propagande et même une fonction stratégique. Mais quand même, il y a des gens qui... Je reviens à l'action du sacrifice, c'est une question de fond, je crois. Il y a des gens très bien qui ont dit « Ah oui, voilà, les meurtriers de Daesh, ils pratiquent des sacrifices. » Lorsqu'ils égorgent leurs victimes en chantant des nashids, etc., c'est un sacrifice à leur dieu. Alors non.
Nashid étant un hymne.
Oui, un hymne religieux, psalmodié sans musique, sauf erreur. C'est très à la mode, semble-t-il, pour dans ce courant-là. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice ? Pas du tout. C'est un meurtre, c'est un assassinat abject d'une victime des armées. Ça n'a rien à voir avec un sacrifice. Là encore, moi je suis philosophe, notre déformation professionnelle, c'est un peu l'étymologie, revenir au sens des mots. Sacrifice, c'est encore du latin, sacrificare, ça signifie faire du sacré. Donc lorsqu'on fait un sacrifice en l'honneur d'une divinité, on invoque le nom du dieu, on prononce des prières, il y a des rites, en général c'est un prêtre qui officie, donc il y a une offrande qui est sacralisée.
Et on offre un holocauste à cette divinité.
Alors l'holocauste, c'est une forme de sacrifice total, c'est quand on garde rien pour les hommes et on donne tout au dieu. On trouve ça déjà dans la Torah. Mais je veux dire, profondément, on sacralise la victime pour la rendre digne du dieu. Alors lorsqu'on égorge un malheureux prisonnier sur un coin de désert en le filmant, je veux dire, il y a ni prêtre, ni offrande, ni rien. Il n'y a pas de sacrifice. Parce que la victime, elle est considérée comme une saloperie qu'il faut anéantir. Point. Voilà.
Donc là, en l'espèce, c'est un assassinat abject, anti-humaniste et attentatoire à la dignité humaine.
Totalement. Il n'y a aucun sacrifice dans cela. Alors bon, pourquoi y a-t-il donc du sacrifice dans le djihadisme? Voilà la question que je me suis posée. Et là c'est les travaux de Fethi Ben Slama, qui est le psychanalyste, qui est un de mes amis, qui fait un remarquable travail sur ces questions. Dans son très beau livre « La guerre des subjectivités en islam », il cite le testament d'un combattant chiite libanais du Hezbollah, qui dit que bon, il va se faire exploser, il va commettre donc un attentat suicide, il va se faire exploser, et il dit ainsi: j'offrirai mon corps à l'imam Hussein, démembré comme lui-même l'a été, pour revenir devant mon seigneur en morceaux, etc. Je dis bon, ok, donc il veut imiter la passion de l'imam Hussein, démembré après sa défaite à Karbala. Bon, ça renvoie au tout premier siècle de l'islam.
680.
Voilà, oui, c'est la grande fitna, la première grande scission. Et effectivement, bon, ce petit-fils du prophète a été démembré, coupé en morceaux, etc., par les gens qui l'avaient vaincu et tué. Et donc, je me suis dit, tiens, ce combattant chiite libanais, il vit son attentat suicide comme autre chose qu'un suicide, comme un martyr, dans lequel il imite le martyr de l'imam. Et donc, effectivement, là, il y a une dimension clairement sacrificielle. Il fait de son corps une offrande sacrée pour l'envoyer, j'allais dire, à Dieu, à son Dieu. Je dis à son Dieu parce que j'en parle un peu à la fin, ça c'est une question difficile, mais bien que les djihadistes invoquent sans cesse le nom de Dieu, je ne suis pas certain du tout que leur Dieu soit le Dieu compatissant, miséricordieux, Dieu dont parle le Coran. C'est un dieu qui exige des sacrifices et des meurtres et des assassinats et des tortures. Il ressemble plutôt à ce qu'on appelle le Iblis ou Satan. Mais bon, c'est une question théologique. Mais oui, donc je pense que ces gens-là, en offrant leur corps, comme une offrande à leur dieu, là, ils pratiquent une sorte de sacrifice étrange. Ils pratiquent ce qu'on pourrait appeler un suicide sacrificiel. Alors bien sûr, c'est aussi un attentat. Il y a une volonté de se tuer pour tuer. Mais l'élément sacrificiel, il est dans l'autosacrifice. Alors question, est-ce que cet autosacrifice du djihadiste, qui se fait exploser pour tuer d'autres gens, est-ce qu'il est conforme ou non à l'enseignement de l'islam ? Alors je ne suis pas musulman, mais en étudiant un peu les textes, je pense que c'est très clair qu'il faut répondre non. Ça transgresse très fortement, gravement, les enseignements fondamentaux de l'islam et aussi des autres religions abrahamiques, du judaïsme, du christianisme.
Et ceux qui ont cru bon les bénir commettent par là un forfait et un mensonge manifeste. Et donc la responsabilité des hiérarques, des oulémas qui se sont tus, peut-être maintenant ils parlent un peu plus, pour démasquer cette tartufferie, cette supercherie, en tout cas cette escroquerie morale et intellectuelle, leur responsabilité est plus qu'engagée.
Je pense que les gens qui ont manipulé ces jeunes en leur disant « Vas-y, fais-toi sauter, tu deviendras un shahid, un martyr », là, c'est absolument scandaleux. Ils participent de cette défiguration de l'islam, pour au moins deux raisons, peut-être trois. Bon, première raison, c'est un suicide. Et sauf erreur, le suicide est interdit par l'islam.
Ne vous tuez pas vous-même, voilà. Car Dieu n'a cessé d'être miséricordieux envers vous.
Voilà. Deuxièmement, c'est un suicide sacrificiel, c'est-à-dire c'est présenté comme un sacrifice humain, l'offrande d'une victime humaine à Dieu. Et ça, les trois religions abrahamiques se font toutes sur un même récit fondateur, le récit du sacrifice d'Abraham, Ibrahim, qui va sacrifier son fils Isaac pour les uns, Ishmaël pour les autres, la question est ouverte.
Ishmaël n'est pas cité coraniquement, donc ce n'est pas vraiment problématique.
Je l'ai vu, mais bon, laissons. Il va sacrifier donc son fils, et bon, là, la voix de Dieu lui dit « Non, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant ». Bon, donc les trois religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois religions issues d'Abraham, sont fondées sur le refus du sacrifice humain. Donc des gens qui pratiquent le sacrifice humain sous la forme de l'auto-sacrifice, ils défigurent le message fondamental de ces trois religions.
Il y a aussi, toujours dans ce cadre-là, vous avez cette citation de Spinoza, « Pourquoi tant d'êtres humains combattent pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur salut ?» Là, c'est leur propre mort, mais c'est une sorte de mort dans leur esprit salvatrice, rédemptrice.
Oui, alors effectivement, ils pensent qu'en se sacrifiant ainsi, ils sont martyrs et donc ils pourront accéder directement au paradis, à la vie éternelle. Bon, je pense que là, il y a certaines croyances. Il y a ce que j'appelle des schèmes qui opèrent et qui captent des sujets pour les mettre au service des dispositifs. Ça, c'est une question que je m'étais posée déjà en travaillant sur la chasse aux sorcières. Enfin, c'est la question de la persécution. C'est-à-dire, lorsqu'un dispositif de persécution et de terreur se met en place, comment se fait-il que des gens y adhèrent? Comment se fait-il que des gens acceptent, bon, au moment de la chasse aux sorcières, on a vu des filles dénoncer leur mère, des mères dénoncer leurs fils, des frères dénoncer leurs sœurs, des voisins dénoncer leurs voisines, et l'accusé finissait sur le bûcher. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'un dispositif peut capter les gens, les attirer vers eux? Donc je me suis interrogé sur ce qui constitue ce que j'appelle le champ d'attraction d'un dispositif. Et là, bon, c'est une notion un peu technique, j'ai introduit la notion de schème. J'ai cherché un nom, mais bon, le nom de schème convient bien. Alors, qu'est-ce qu'un schème pour moi? C'est une représentation imaginaire, mais elle permet de capter des affects. Des affects qui peuvent être tout à fait positifs. Ça peut être des affects d'espérance, de révolte, d'indignation, des affects de colère, des affects portés par une soif de justice. Il y a certains schèmes qui leur permettent d'être insérés dans un dispositif de combat. Mais ça peut être aussi des affects totalement négatifs et avant tout la haine. La haine qui est pour moi le pire de tous, qui est l'affect le plus triste des passions tristes, pour, comme aurait dit Spinoza. Et il y a effectivement des schèmes qui permettent à des gens qui ont la haine, qui sont saisis par la haine, d'adhérer à un dispositif qui leur donne des cibles, qui leur dit « voici les gens qu'il faut tuer ». Et il y a même pire, il y a même des gens qui sont mus par une juste indignation, par une juste révolte, par une juste colère, parce que la colère peut être juste. La colère, c'est une colère aussi contre un tort, une injustice qu'on croit avoir subie. Il y a des gens qui sont mus par une juste colère, par exemple un jeune de banlieue ou moins jeune, qui se révolte contre le racisme, contre le chômage, contre la discrimination, contre toutes sortes de formes d'injustice. Alors sa juste révolte, sa juste colère, par le moyen de certaines représentations, elle peut être captée par un dispositif de terreur, par exemple le djihadisme, mais autrefois c'était le fascisme, et là sa colère, elle se transforme, le dispositif le transforme en haine. Et là, sa colère perd tout rapport avec le désir de justice initial qui l'animait. Elle devient un pur désir de destruction qui n'a plus aucun rapport avec le juste et l'injuste. Elle devient de la haine.
Et on réparera le mal par un mal encore plus grand.
La haine engendre toujours la haine. Ça, Spinoza l'avait bien vu, parce que celui qui se sent objet de haine, il est porté lui-même à éprouver de la haine envers celui qui le hait. Et donc, on rentre dans une spirale sans fin de la violence et de la haine, conduit au désastre, c'est une montée aux extrêmes qui conduit à la mort.
Et pour revenir à la persécution, se sont soit persécutés et on persécute soi-même autrui, c'est parce que il faut traquer sans répit et suivre jusqu'à la mort.
Persécuit en latin au départ, ça signifie suivre jusqu'au bout. Alors c'est quoi ce bout? Je crois que le bout c'est la mort. Un dispositif de persécution, c'est un dispositif de terreur, c'est un dispositif qui se donne pour but d'anéantir sa cible. Quoi qu'elle ait pu faire, ça c'est le point important. Parce qu'encore une fois, moi je suis pas opposé à la violence. Bon, lorsque des gens sont en lutte contre un oppresseur féroce, on peut avoir recours à la violence, et même à la lutte armée, pour chasser les colons, l'armée d'occupation, les Allemandes, etc. Oui, d'accord. Là c'est une juste colère qui peut conduire à un juste combat. Non, ce qui ne va pas, c'est que lorsque cette juste colère se transforme en haine, à travers, encore une fois, certains schèmes, et que là, on perd de vue l'idéal de justice, on cherche uniquement à anéantir. Ce que Jeanne d'Arc, que nous évoquions tout à l'heure, ne faisait pas. Ses juges essayent de lui faire avouer que pour elle, Dieu est, enfin, Dieu vomit et déteste les Anglais. Elle dit, ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut les chasser hors de France.
Ce que vous dites si bien dans votre ouvrage, donc publié chez Des Clés de Brouwer, je donne le titre « Djihadisme, le retour du sacrifice », Jacob Rogozinski, c'est que, en réalité, et c'est une question que je vous pose, comment se fait ce glissement vers la haine, vers ce sentiment fort, cette triste sensation, alors que, en réalité, aucun passage des évangiles n'a préfiguré l'Inquisition, aucun passage, aucune thèse du manifeste communiste ni du Capital n'a préfiguré ou n'a anticipé le goulag.
Et on peut dire aussi qu'aucun passage du Coran ne permet de justifier ou de légitimer le djihadisme, la terreur djihadiste. Je veux dire, oui, alors ça c'est le problème des textes. Si vous voulez, bon, tous les dispositifs politiques ou de croyance utilisent toujours des textes fondateurs, des textes sacrés pour se légitimer. Et donc les gens un peu naïfs croient que c'est dans ces textes que se trouve la clé de la violence ou de la terreur que peuvent commettre ces dispositifs. Et donc il y a des braves gens qui se précipitent pour lire le Coran, qui disent « Ah là, il y a tel verset où il est dit ceci, et donc ça explique le djihadisme ». Mais non, mais c'est absurde. Je veux dire, bon, ce qui est décisif, c'est le dispositif. Et les schèmes qu'ils utilisent, ce ne sont pas les textes. Effectivement, il n'y a rien dans le manifeste du Parti communiste qui permet d'annoncer le goulag. Et pourtant, les staliniens, en envoyant des millions d'hommes à la mort au goulag, ils s'appuyaient sur le manifeste du Parti communiste. Ce qui est décisif, c'est pas le texte. Ce qui est dispositif, c'est encore une fois le schème. Par exemple, bon, le schème du complot, le schème de l'apocalypse, le schème de l'élection, hein, le schème de l'anti-messie. Ce sont ces schèmes-là qui structurent le discours des djihadistes. Je veux dire, le Coran, bon, il le défigure comme il défigure toute référence à l'islam. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont captés par ces représentations, par ces schèmes qui les attirent dans le champ d'attraction du dispositif.
Oui, j'ai lu un passage de vous, cette fois-ci page 58, où vous dites à ce sujet... Respecter le Coran serait s'efforcer de le lire attentivement en cherchant à entendre les voix multiples qui le traversent, à le comprendre, dans toute sa complexité, sa profusion de sens, au lieu d'en faire une simple réserve de citations permettant de justifier n'importe quoi.
Voilà, je pense que tout est dit.
C'est-à-dire qu'on n'a pas à extraire hors contexte tel ou tel passage pour s'en prévaloir. On n'a pas à prendre ni dans un sens ni dans l'autre. C'est même une exégèse sauvage et dans certains cas, elle devient une exégèse sanglante.
C'est ce que le regretté Abdelwahab Medeb, dont les travaux m'ont beaucoup inspiré, appelait l'accès sauvage à la lettre. Où n'importe qui se croit autorisé, parce qu'il a lu deux ou trois citations coraniques sur Internet, de faire n'importe quoi, par exemple pratiquer l'attentat suicide, en pensant que c'est prescrit par le Coran, alors qu'il n'y a rien dans le Coran qu'il prescrive, au contraire. Le Coran, comme les évangiles, ou comme tous les grands textes religieux de la tradition, comme les Védas, bon, pour l'hindouisme, sont des textes complexes, sont des textes, comme je dis là, polyphoniques. Il y a différentes strates, il y a différentes orientations qui s'esquissent. Donc, il faut les lire avec prudence, il faut les lire avec intelligence, il faut les lire avec respect, il faut les lire et les relire. Bon, on pourrait, encore une citation latine, décidément, relegere, religio veut sans doute de relegere en latin. C'est ce qui a plusieurs sens, mais un des sens possibles, c'est relire. Toute religion est relecture. Donc il ne s'agit pas de s'en tenir à la première impression. Hein, il ne faut pas adhérer à son rêve, à son fantasme. Il faut revenir et relire pour avoir une distance critique par rapport au texte fondateur.
Oui, alors nous avons vu donc avec vous qu'il y a des colères saines et justifiées. Le drame, c'est lorsque ces colères se muent en haine destructrice. Mortifère au sens premier du terme, porter la mort et vers la mort. Donc comment finalement vous passez dans, vous consacrez tout un chapitre à la corrélation ou le lien entre le prolétariat et la plèbe?
Oui, alors ça c'est une autre question. Là on sort un peu apparemment des problèmes religieux. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui donne sa base sociale au djihadisme? Ça c'est une vraie question. C'est trop facile de dire c'est uniquement des fanatiques ou des fous ou des nihilistes, ça suffit pas. On veut pas comprendre d'où ça vient et pourquoi en quelques mois des dizaines de milliers de jeunes Européens ont pu courir en Syrie pour s'engager dans les rangs de Daesh. Donc ça doit envoyer quelque chose d'autre. Et là j'ai essayé de lire des témoignages, des écrits de jeunes djihadistes qu'on trouve dans différents livres, notamment ceux de Daniel Thompson. Et bon, derrière il y a quelque chose que j'appelle une souffrance sociale. Elle peut se combiner à une souffrance personnelle, psychologique. Souvent on dit, oui, crise d'adolescence, ça suffit pas. Je pense que derrière, il y a une souffrance sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent de ne pas être reconnus, de ne pas être reconnus à leur juste valeur par la société, parce qu'ils se heurtent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'injustice, à la discrimination, à la relégation dans des cités ghettos, au chômage, à différentes formes de racisme. Et donc, ça suscite aux bavures policières, bon, à tout ça. Et donc, ils ont un sentiment de colère, d'indignation et de révolte qui est lié à cette souffrance sociale, à cette absence de reconnaissance. Et après, les dispositifs s'en emparent et le font virer à la haine, comme je l'ai expliqué. Alors, comment appeler ces gens-là? Bon, est-ce que c'est encore la classe ouvrière? Je pense que le mouvement ouvrier est en pleine décomposition dans les pays occidentaux. C'est d'ailleurs pas une bonne chose. C'est très dommage que ces instances de régulation, qui étaient les grands syndicats ouvriers, ou même le Parti communiste, ou le Parti socialiste, qui est aussi en train de se décomposer, semble-t-il, c'est sans doute dommage qu'ils soient en train de se décomposer, de disparaître, parce qu'ils avaient une fonction régulatrice dans la démocratie. Bon, je pense qu'aujourd'hui, pour des raisons historiques, sociales, la classe ouvrière est en décomposition, le mot ouvrier aussi. Et donc, ce qui ressurgit, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est des gens qui se sentent à la marge, des gens qui souffrent de ne pas être reconnus, qui souffrent de sont parfois dans la misère, mais pas uniquement, et qui vivent d'expédients, de petites délinquances, de petits trafics. Et je me suis dit, mais comment nommer ces gens qui sont quand même assez nombreux, et qui sont, semble-t-il, la principale base sociale des mouvements djihadistes. Presque tous, au départ, pas tous, mais presque tous, sont des gens qui ont connu la galère, la misère, la délinquance, qui ont dealé, etc. Et puis, tout à coup, il y a une sorte de conversion qui bouleverse leur vie. Une conversion, malheureusement, à un islam fanatique et défiguré, qu'ils prennent pour le véritable islam. Alors, comment nommer ces gens-là, qu'on appelle parfois, qui s'appellent eux-mêmes les racailles, bon. Alors, je me suis dit, il faut retrouver un vieux mot, hein, encore une fois, comme le vieux mot de fanatisme, un mot qu'on a oublié, qui est utile. Et j'ai pris le nom de plèbe. Parce que chez un philosophe comme Hegel, philosophe allemand du 19e siècle, le terme Pöbel, qu'on peut traduire par plèbe, désigne justement des gens qui ne sont pas reconnus dans la société bourgeoise moderne. Des gens qui souffrent de leur non-reconnaissance et qui donc sont portés à se révolter, dit Hegel, contre la société, contre le gouvernement. Alors voilà, moi je pense que la décomposition du prolétariat, la décomposition du mouvement ouvrier traditionnel fait apparaître une nouvelle plèbe. Et c'est là que se trouvent les foyers de cette révolte qui peut dégénérer dans le djihadisme ou dans différentes formes de terreur.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jacob Rogozinski. Nous parlons aujourd'hui du retour du sacrifice, du djihadisme, de ces différentes, en tout cas vous faites de bonnes présentations, des tentatives, plus que tentatives, des explications tout à fait recevables, si vous permettez que je les présente ainsi. Dans cette stratification chez certains ou cette cristallisation multidimensionnelle ou pluricausale de ce phénomène du djihadisme, là nous étions dans la strate sociale ou sociologisante en tout cas, vous avez récusé la question nihiliste parce que ils croient à quelque chose qui est tout à fait mortifère mais ils y pensent et ils y vont. Où placez-vous, quand vous parlez aussi du tyran et du prophète, cette approche-là, est-ce dans une approche théologico-philosophique ou quelle est l'approche que vous mettez dans ce lien entre la tyrannie et la prophétie?
Oui, alors ça c'est le passage où j'essaie de réfléchir plus précisément sur ce que sont les religions et ce que j'appelle les dispositifs de croyance. Bon, je l'ai fait parce qu'on est en France, c'est un pays, je suis un immigré de la deuxième génération, mais je suis quand même très content d'être français, très heureux d'être là, mais c'est un pays un peu bizarre qui, bon, là, en France, c'est lié à l'histoire de la France. Il y a une vieille passion française qui est l'anticléricalisme, une sorte de méfiance agressive envers le religieux comme tel. C'est certain que les récents attentats ont aggravé ça. Il y a l'idée très répandue en France, y compris chez des intellectuels. Il y a l'idée que toutes les religions seraient par nature fanatiques ou dangereuses ou violentes. J'ai montré tout à l'heure qu'il n'en était rien, que le fanatisme est une défiguration possible, présente dans toutes les religions. Donc je me suis dit, il faut essayer de réfléchir plus précisément sur le fondement du religieux. Et aussi comprendre comment une révolte juste de ce que j'appelais les nouveaux plébéiens peut se trouver tout à coup captée par un dispositif de terreur qui se réclame de l'islam. Tout ceci est très énigmatique. Alors bon, pour ça, je pense qu'il faut faire une distinction forte entre différents types de religions. La religion n'existe pas, il n'y a que des religions. Ça, c'est Paul Ricoeur qui disait cela et c'est très vrai. Bon, il y a des religions dont le principal but est de légitimer le pouvoir établi. d'être des instruments de légitimation des dominants et de domestication des dominés, comme le disait le sociologue Max Weber. Bon, et, je prends une religion que je respecte beaucoup, qui est très belle, qui est l'hindouisme, qui est pratiquée par 1 milliard d'hommes environ, c'est pas rien. Bon, c'est une religion qui fonde, dès ses textes canoniques, la division en castes de la société, et l'obéissance des castes inférieures aux castes supérieures, la distinction forte entre la pureté des castes supérieures et l'impureté des inférieures. Bon, donc effectivement, elle légitime l'inégalité, l'injustice, la hiérarchie. Et il y a d'autres religions qui, au contraire, se dressent contre cela, hein, très fortement. Et là, je trouve qu'on a affaire à des religions qui opèrent comme des dispositifs d'émancipation. Et je sens cela dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, dans les trois grandes religions abrahamiques. Et là, bon, il y a une chose qui m'a... Bon, quand j'ai relu plusieurs fois le Coran pour rédiger ce livre, là, je me suis aperçu quelque chose de très, très intéressant. C'est la figure du pharaon, hein, qui est présente, bien sûr, dans la Torah, dans le récit de l'Exode, et qui réapparaît fortement dans le Coran, mais avec une inflexion un peu plus nette, plus politique, je dirais, hein, théologico-politique. À plusieurs reprises, le Coran fait dire au pharaon, qui s'oppose à Moïse, bien sûr, à Moussa, le Coran fait dire au pharaon « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi », ou alors il s'adresse à son peuple et dit « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut », et il dit à Moïse « Si tu adores un autre Dieu que moi, je te ferai mettre en prison ». Donc là, le Coran dénonce très clairement une forme d'idolâtrie qu'on pourrait appeler une idolâtrie politique, c'est-à-dire la sacralisation et même la divinisation d'un chef politique. Et ça, c'est la figure majeure de la tyrannie. Et donc, il y a une critique forte de cette fusion du politique et du religieux consistant à sacraliser, à diviniser le chef politique. Alors, vous me direz, bon, ça, c'est des histoires anciennes, le pharaon d'Égypte, ça remonte à 30 siècles. Mais non, c'est des histoires très, très modernes et très contemporaines, ça nous concerne. Que l'on pense simplement à ce qui s'est passé au XXe siècle, à l'essor de ces religions séculières comme le communisme et les fascismes, et au culte délirant de Staline, de Hitler, de Mao, de chefs politiques qui ont été considérés comme des dieux vivants par des millions et des dizaines de millions de personnes. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Voilà. Sacraliser le chef politique, c'est une composante forte du totalitarisme. Alors, de ce point de vue-là, ça m'a conduit à écrire que les énoncés du Coran que j'ai cités ont aujourd'hui une dimension anti-totalitaire. Et donc, il y a des éléments dans le Coran pour critiquer la fusion mortifère du politique et du religieux, y compris celle qui est pratiquée par les courants de type djihadiste. Donc, je pense qu'il y a une dimension prophétique dans le judaïsme, dans le christianisme peut-être, mais elle est un peu masquée par quelque chose, et très clairement dans l'islam, parce que qu'est-ce que le prophète, le nabi ? C'est celui qui se dresse contre le tyran, comme Moïse s'était dressé devant Pharaon, hein, et qui dénonce l'injustice du tyran.
Et vous évoquez la question de David et d'Uri, et le bien prophète sûr. Qui se dresse contre
lui. Oui, alors je dis, c'est pas un hasard si le fondateur de l'islam s'est pas présenté comme un messie, comme un sage, mais comme un nabi. Alors moi en tant que juif, je considère que le prophète Mohammed est un héritier des prophètes d'Israël. Je veux dire, bon, ceux dont le Coran est le plus proche, me semble-t-il, je ne comprends pas tout à l'heure de sa polyphonie, enfin, la voix dominante du Coran, moi j'entends résonner les échos d'Isaïe, d'Ézéchiel, très clairement. Bon, c'est le dernier des prophètes d'Israël, en un certain sens. Je vais peut-être choquer différentes personnes en disant ça, mais je l'affirme. Voilà. C'est important d'avoir des prophètes, c'est-à-dire des gens qui dénoncent l'injustice face aux tyrans.
Oui. Et vous ajoutez dans ce sillage, en tout cas avec une idée que les idéologues de l'islamisme politique, je le dis sous votre contrôle parce que le vocabulaire est très très piégé, vous qui dénoncez les mots obstacles, les mots écrans, les mots ailleurs, on en parle des mots hocher, des mots valise, des mots poison, eh bien que ces idéologues-là introduisent dans le champ sémantique des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la tradition, comme le Coran et notre constitution, comme la notion de république ou d'État, au sens moderne du terme, et ils matinent ça, ou ils colorent ça d'une couleur confessionnelle.
Oui, alors ça, c'est vraiment frappé, parce que c'est très très intéressant. Hein, je veux dire, c'est des gens qui exècrent, bon, c'est des gens qui se réclament de l'islamisme politique, je n'aime pas trop ce mot, enfin, des fondamentalistes musulmans, disons ça. Ils se réclament d'une détestation forte de l'Occident, de toutes les valeurs occidentales, mais quand on regarde les termes qu'ils emploient, sont des termes, en politique notamment, sont des termes politiques de la tradition occidentale. Quand on dit État islamique, bon, je crois, ça renvoie à une certaine conception de l'État. Bon, j'évoque un peu le terme d'aula et sa différence avec status. Bon, mais bon, l'État, bon, c'est quand même une connotation forte qui renvoie à l'histoire de la romanité. Lorsqu'on parle, bon, de parti de Dieu, Hezbollah, la notion de parti, c'est une notion politique occidentale et moderne. Lorsqu'on parle de république islamique, alors très clairement, c'est une notion romaine, latine, occidentale. Donc, on prend des notions occidentales et même parfois modernes, comme la notion de parti, et on accole l'adjectif islamique comme si elle suffisait à les rendre musulmanes. Mais non, on crée donc des monstres hybrides, des mixtes, qui sont inconsistants de tout point de vue. Je pense que ces gens-là ont cru qu'il suffisait de reprendre des notions de la philosophie politique occidentale et de mettre islamique pour créer une nouvelle théorie. Mais je pense que l'islam peut et doit s'affirmer, y compris sur le plan politique, pourquoi pas, en puisant dans les ressources de sa propre tradition, dans ce que j'appelle les trésors perdus de l'islam. Je pense que la tradition classique de l'islam est par elle-même assez riche, assez émancipatrice. Il y a ce que j'appelle l'utopie émancipatrice de l'islam. Il y a des éléments dans la tradition de l'islam qui peuvent permettre aux musulmans de résister à l'attraction mortifère du djihadisme sans importer des concepts venus d'ailleurs.
Jacob Rogozinski, nous nous approchons du terme de l'émission, alors que votre ouvrage est très dense, ouvre beaucoup de perspectives, et ça mériterait que vous y reviendriez vraiment.
Avec plaisir.
Là, si nous devions avoir une conclusion, et dans votre ouvrage, elle s'intitule « Surmonter la haine », qu'est-ce que vous aurez à préconiser ?
Oui, alors surmonter la haine, ça j'y tiens beaucoup, parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que la haine est un sentiment mortifère et que la haine rompt totalement avec l'exigence de justice. Donc il ne faut pas céder à la haine. Là j'évoque ce très beau petit livre écrit par quelqu'un dont la femme était assassinée au Bataclan et qui dit je refuse de faire
vous
le cadeau de ma haine.
Voilà,
vous n'aurez pas ma haine. Je refuse de faire le cadeau de ma haine au meurtrier de ma femme. Alors ça ne veut pas dire non-violence, ça ne veut pas dire cesser de lutter contre le mal. C'est essayer de lutter sans haine contre des gens qui sont des ennemis réels, mais sans en faire des monstres absolus comme eux-mêmes nous considèrent. Bon, ça c'est un appel à la résistance et à la lutte, mais qui ne passerait pas par la haine. Alors une des choses que je suggère dans le livre, mais ça c'est une chose difficile, je pense que c'est en grande partie la tâche des musulmans d'opérer cela. Et ça implique aussi une remise à zéro de certains compteurs, si vous voulez, une refonte profonde de certains éléments de la religion musulmane. Bon, là, je parle de réforme intellectuelle et morale. Je sais que vous préférez parler de refondation. Parce que, bon, ça se discute. Bon,
peut-être que le mot refonte est tout à fait approprié aussi.
Éric Geoffroy parle de refonte de sens. Je pense que chacune des trois religions abrahamiques doit s'interroger sur elle-même et sur ce qui, dans sa tradition, a pu donner prise à des dérives fanatiques. C'est vrai pour les trois religions. Donc il y a un travail de relecture, relégueré, il y a un travail religieux de relecture de la tradition pour essayer de rompre avec toutes les traces, avec tous les points d'ancrage du fanatisme et du fondamentalisme qui défigure le message émancipateur des trois religions. Donc il y a vraiment un travail essentiel à faire pour les juifs, les chrétiens et les musulmans pour avancer vers plus de fraternité et aussi vers plus de démocratie et vers la paix.
Merci infiniment. Le mot paix ponctue vos propos. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierrick Charles. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
No, fuck that. I'm telling you. That shit was dope. That shit was dope, man.